I left the Labour Party in the 90s.
Moi, j'ai quitté le Parti travailliste dans les années 90. J'ai toujours été proche d'organisations de gauche.
And,
Ken Loach.
I had always thought that the Labour Party would not.
Je peux vous dire que j'ai jamais cru que le Parti travailliste redeviendrait un parti radical.
For all my political life, which is 50 years. We have talked about building.
Ça doit faire à peu près 50 ans que je suis actif politiquement, et pendant toute cette vie politique, j'ai participé avec d'autres à des tentatives de créer le parti de la classe ouvrière.
And we've always failed.
Et à chaque fois, ça a raté.
When there was a possibility of a radical leader, it is now the biggest party in Europe.
Et là, nous avons une personne radicale à la tête d'un parti qui est un parti de masse, qui est le plus important d'Europe.
Quand on a rencontré Ken Loach, le cinéaste britannique, il y a quelques semaines à Londres, il a exprimé sa solidarité avec les cheminots français et il s'est aussi montré très enthousiaste pour Jeremy Corbyn. Alors après, on est rentré en France avec Daniel Mermet et regonflé à bloc de cet enthousiasme. Mais on s'est rendu compte qu'en France, il y a peu de gens qui sont au courant de ce qui se passe au Parti travailliste, alors que c'est au Royaume-Uni, juste à côté de chez nous. On s'est donc dit que ça valait le coup de creuser un peu du côté de Corbyn. Et on va creuser avec donc Paul Vanier, qui, en plus de ses responsabilités au Parti de gauche, est journaliste et a coécrit un papier avec Alan Poplar sur le Parti travailliste de Jeremy Corbyn. Alors, avant de voir comment Jeremy Corbyn a transformé le Parti travailliste, il faudrait comprendre pourquoi on parle de lui maintenant. On parle de lui parce que c'est le leader du Parti travailliste et qu'il a beaucoup de chances pour être le prochain Premier ministre.
Oui, c'est ça. Il est sans doute en situation de le devenir si des élections étaient, pourquoi pas d'ailleurs des élections anticipées, étaient appelées par Theresa May, qui est dans une situation difficile aujourd'hui, en pleine gestion du Brexit. Et dans ce papier avec Alan Poplar, en effet, on s'interroge sur ce qu'on appelle la triple exception que constitue aujourd'hui le Labour de Jeremy Corbyn. Parce que ce parti, vieux parti, il est fondé au tout début du XXe siècle, vieux parti de la social-démocratie, et le seul en Europe à connaître non seulement un regain, mais il est spectaculaire. Il a gagné près de 300 000 adhérents depuis 2015, depuis l'élection de Jeremy Corbyn à sa tête. Ce parti, premier caractère surprenant, disons. Ce parti, il n'est pas non plus concurrencé par l'émergence d'autres forces, comme on l'a vu en Espagne avec Podemos, qui vient disputer le terrain du PSOE, comme en France avec la France Insoumise, qui a pris l'avantage sur le parti socialiste. Et puis, troisième exception, ce vieux parti de la social-démocratie s'affirme aujourd'hui comme un parti de gauche, résolument de gauche. On parlait des étudiants, et bien Jeremy Corbyn veut faire de l'abolition des frais d'inscription à l'université, qui ont augmenté dans des proportions considérables outre-Manche, l'un de ses objectifs s'il parvenait au pouvoir. Il veut renationaliser le chemin de fer. Au moment où, ici, on s'apprête à le privatiser, il y a donc une affirmation dans un camp, celui de la gauche, et un programme dans ce reportage qui nous a fait traverser l'Angleterre, de Londres jusqu'à Durham, dans le Nord-Est, en passant par Sheffield. Eh bien, il était souvent décrit, ce manifeste du Parti travailliste, comme le plus à gauche que des militants, parfois anciens, n'avaient jamais défendu.
Surtout que le Parti travailliste, dans les années 90, s'est complètement converti au néolibéralisme avec Tony Blair. Et c'est là où cette histoire est intéressante avec Corbyn. C'est Corbyn, c'est un modeste député élu depuis 1983 et qui, contre toute attente, en 2015, réussit à prendre la tête de ce parti.
Ouais, c'est ça. Corbyn, c'est un député. C'est aussi une figure des mouvements citoyens en Angleterre. Il a longtemps été à la tête de la coalition anti-guerre, qui a joué un rôle absolument déterminant en 2003.
Contre la guerre en Irak.
Contre la guerre en Irak. On se rappelle des manifestations monstres qui se sont tenues à Londres en opposition à cette guerre. Une guerre conduite par Tony Blair, oui, chef du Parti travailliste et Premier ministre travailliste de l'époque. Il est donc à la fois un homme politique, un agitateur d'un certain point de vue, c'est ce qui explique aussi peut-être la façon dont aujourd'hui il a reconfiguré son organisation. Et puis il a longtemps été un opposant. Il est, je crois, le député travailliste qui a le plus voté contre les directives de son groupe parlementaire durant les différents mandats. Il est en effet depuis 1983 et sans interruption élu député. Donc figure minoritaire, personnage plutôt âgé aussi, et qui, à la surprise générale, en 2015, emporte les élections qui doivent désigner le nouveau leader du parti travailliste, emporte dès le premier tour à 59% des suffrages, donc de façon extrêmement nette, en profitant finalement d'un mécanisme de primaire ouverte.
Primaire ouverte, c'est-à-dire que le vote n'est pas réservé aux adhérents du parti, mais ils ouvrent la possibilité à des gens de voter
contre trois livres. Possibilité de voter, 4 euros, et donc un grand nombre de jeunes notamment, de syndicalistes aussi, de militants des mouvements anti-guerre sont venus voter à l'occasion de cette élection et ont permis son élection de façon surprenante pour l'appareil du Parti travailliste et notamment pour la majorité du groupe parlementaire très proche de ce qu'on appelle le New Labour, c'est-à-dire cette période durant laquelle Tony Blair puis Gordon Brown ont été à la tête de l'organisation et ont impulsé des politiques que l'on peut qualifier de néolibérales.
Je me souviens, dans l'époque là, il y avait dans ce bar un pot commun.
Tony Blair.
Et on m'a dit strictement qu'il fallait y mettre tous les pouvoirs.
24 mars 1998.
Au bout de 2 mois, j'ai découvert que j'étais le seul à le faire. C'était ma première leçon de socialisme appliqué. La gestion de l'économie n'est ni de gauche ni de droite, elle est bonne ou mauvaise.
Alors, dans la perspective de prendre le pouvoir, Corbyn s'appuie notamment sur deux organisations. Il y a Momentum et Unite, qui est le premier syndicat britannique. Qu'est-ce que c'est Momentum ?
Quelque chose de nouveau, puisque Momentum, c'est une organisation qui se crée en octobre 2015, c'est-à-dire un mois après l'élection de Jeremy Corbyn à la tête du parti travailliste. C'est un groupe d'activistes à gauche et qui fait émerger dans l'espace militant de la gauche britannique de nouvelles façons de faire de la politique, très actif sur les réseaux sociaux, très actif en termes de porte-à-porte, qui pratique des opérations de ciblage de la carte électorale pour venir amasser des forces militantes là où des victoires peuvent être obtenues, et qui est fondée par un très proche de Jeremy Corbyn qui s'appelle John Lanzmann, qui vient de rejoindre la direction du Parti travailliste et dont la première des tâches a consisté à défendre Jeremy Corbyn une fois qu'il a été élu leader du Parti travailliste. Car Jeremy Corbyn a été immédiatement attaqué, en particulier par les parlementaires qui, à plusieurs occasions, et notamment en 2016, ont tenté de faire invalider son élection et de le remplacer à la tête du Parti travailliste. Donc ce groupe Momentum, qui compte aujourd'hui 40 000 membres, qui rassemblent essentiellement plutôt des jeunes militants, habitants des grandes villes anglaises. Il y a 170 groupes d'action aujourd'hui à l'échelle du Royaume-Uni de Momentum. Eh bien, ils sont en même temps membres du Parti travailliste depuis 2016. Tous les adhérents de Momentum sont aussi membres du Labour. Et ils défendent des positions parfois différentes de celles du reste de l'organisation. Ils ont défendu de façon très active, par exemple, dans le cadre de la campagne référendaire à l'occasion du Brexit, eh bien, la position du Remain, du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, alors que le parti et Jeremy Corbyn étaient sur une position elle aussi en faveur du Remain, mais beaucoup moins appuyée. Donc il y avait là une campagne très active de leur part. Et puis sur d'autres questions, par exemple les questions migratoires, ils sont aussi force de proposition, même si Momentum n'a pas un programme distinct de celui du Labour. Ils sont maintenant totalement intégrés à la vie du parti et agissent à l'intérieur de l'organisation.
Avec une méthode qui est le ciblage de certaines circonscriptions, avec une méthode qui est le porte-à-porte, aussi dans un objectif de faire élire des députés qui soient acquis à la cause de Corbyn, vous l'avez un peu évoqué, mais l'un des enjeux, si ou quand Corbyn sera Premier ministre, c'est qu'il ait une majorité qui soit d'accord avec le programme qu'il défend. Et comme pour l'instant, il était plutôt minoritaire dans le parti. Il y a quand même beaucoup de députés qui restent sur une ligne sociale-libérale de Tony Blair. Et dans le cas où Corbyn deviendra Premier ministre, il faudra qu'il ait d'autres députés qui soient acquis à sa cause pour qu'il puisse mettre en œuvre son programme.
Oui, vous avez raison. Il y a le soutien à certains candidats, pas à tous, du côté de Momentum. Et de la même façon, les syndicats britanniques, puisque c'est l'autre soutien dont bénéficie Jeremy Corbyn, agissent de la même façon, invitant leurs adhérents à soutenir des candidatures de la gauche du parti qui sont favorables au programme de M. Corbyn. de façon, en effet, à renforcer son poids aussi dans le parti parlementaire, que souvent en Angleterre, on distingue du reste de l'organisation. Et Momentum, d'ailleurs, veut reconnecter le parti parlementaire et le parti des militants pour plus de démocratie et une meilleure représentativité de ce que sont les aspirations politiques des travaillistes, qui sont maintenant 600 000.
Avec des syndicats qui soutiennent effectivement largement Corbyn, ce qui est assez étonnant vu de la France, parce qu'en France, on n'a pas cette tradition-là depuis la fameuse charte d'Amiens en 1906. Cette charte d'Amiens a été votée par la CGT, adoptée par la CGT, et a entériné l'indépendance du mouvement syndical par rapport aux organisations politiques. Ce qui n'est pas le cas en Grande-Bretagne, où les syndicats sont derrière Corbyn.
Oui, c'est très intéressant justement de l'observer de façon aussi comparée. En Angleterre, ce sont les syndicats qui ont créé le parti, qui ont créé le Labour au tout début du XXe siècle, et qui trouvaient un de leurs débouchés et un débouché politique. Si bien qu'aujourd'hui, il y a un lien que Jeremy Corbyn a restauré entre les organisations syndicales qui sont importantes, Unite 1,4 million adhérents, Unison 1,3 million, les deux principaux syndicats qui ont appelé à voter en faveur de Jeremy Corbyn dès 2015, eh bien ils sont représentés dans l'exécutif du Labour. Il faut imaginer qu'un tiers des membres de la direction du Parti travailliste sont des militants syndicaux de haut niveau, et les syndicats financent aussi finance la vie du parti. Donc il y a ce lien étroit qui a été très affaibli pendant la période du New Labour, évidemment, puisque Tony Blair puis Gordon Brown ont défendu des politiques qui allaient à l'encontre de ce qu'était le programme des organisations syndicales, si bien que d'ailleurs certains syndicats à l'époque se sont désaffiliés. Eh bien aujourd'hui, ils ont retrouvé une place importante et ils participent de façon très active à la vie du Parti travailliste. Notez par exemple que lors de la désignation du dernier leader du Parti travailliste en Écosse, un terrain décisif car le Parti travailliste a beaucoup perdu là-bas face au Parti national écossais, et terrain décisif car en regagnant des positions en Écosse, eh bien, il pourrait devenir majoritaire à l'échelle du pays. Eh bien, là-bas, Unite, par exemple, son secrétaire général, celui du principal syndicat anglais, s'est engagé en faveur du candidat qui était celui de M. Corbyn.
Alors, Paul Vanier, vous parliez tout à l'heure du Brexit. Il y a quand même une petite ambiguïté de Corbyn par rapport à ça, parce qu'il a timidement soutenu le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et ce que souligne Renaud Lambert dans Le Monde diplomatique, c'est un discours de Corbyn en février, où il imagine ce que sera la stratégie du Labour après la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et Corbyn dit:
durant cette période de transition, les travaillistes vont chercher à demeurer dans une union douanière avec l'Union européenne et dans le marché unique. Cela signifie que nous nous conformerons aux règles existantes des deux zones pendant la transition.
Et alors on se demande à quoi bon sortir de l'Union européenne si on en garde les inconvénients, à savoir la politique économique et le marché unique.
Bon, ce qui est là encore très intéressant, notamment quand on vient de France et qu'on observe le rapport de la gauche anglaise à la question européenne, c'est qu'il se formule dans des termes très différents de ce côté-ci de la Manche. Au Royaume-Uni, la construction européenne, elle a correspondu à un moment qui, dans un rapport de force très défavorable, sous l'ère Thatcher en particulier, permettait de trouver des protections du point de vue du droit du travail. Et donc, les syndicats, qui étaient d'abord eurosceptiques, ont, dans les années 80, vu leur position évoluer et évoluer en faveur de la construction européenne. Elle était pour eux une forme de bouclier. Et cette perception, elle est restée. Si bien qu'au moment du référendum de 2016 sur le Brexit, une infime minorité des syndicats britanniques s'est prononcée en faveur de la sortie sur un scénario qu'on appelle l'exit, contraction de left, gauche et exit-sortie. Évidemment, ça n'était pas le même que celui que proposaient les conservateurs, mais les autres n'ont pas pris de position et une majorité a pris position pour le maintien. Très tardivement, ce qui est le signe de la difficulté à trouver une position, mais tout de même en faveur. Voilà ce qui a conduit notamment Jeremy Corbyn à adopter une position analogue, c'est-à-dire un soutien tardif, très nuancé, à demi-mot, et qu'il a peut-être politiquement réussi à articuler par, je le disais tout à l'heure, l'action de Momentum, qui a été beaucoup plus claire de ce côté-ci. Jeremy Corbyn sait que presque 40% des électeurs travaillistes ont voté en faveur du Brexit, parce qu'ils ont aussi constaté les insuffisances de cette Europe, son caractère ultralibéral, les atteintes aux droits sociaux qui vont avec sa construction, et il est donc dans une position d'équilibre. N'oublions pas enfin qu'en Angleterre, ce sont les conservateurs qui étaient leaders dans la campagne pour le Brexit, et qui, d'un point de vue de la bataille culturelle. On dominait les débats pendant la campagne.
Alors, preuve que Corbyn fait de plus en plus peur, récemment, on lui a fait le coup de l'antisémitisme. C'est une technique à laquelle on commence à être habitué en France depuis 15 ou 20 ans. Une critique à l'égard de ceux à gauche qui critiquent la politique israélienne. Et on fait le coup à Corbyn, qu'on accuse de laisser propager un antisémitisme au sein du Parti travailliste, et auquel on reproche également d'avoir soutenu un artiste qui avait peint une fresque qui représentait des banquiers en train de jouer au Monopoly sur le dos de prolétaires.
Oui, d'ailleurs, il s'est expliqué, Jeremy Corbyn, sur ce point. Il a regretté des imprécisions. Mais ce procès, en effet, revient au moment où le Parti travailliste de Jeremy Corbyn n'a jamais été aussi fort, sur la base d'une rhétorique qui consiste à considérer qu'une position critique vis-à-vis de la politique d'Israël, qu'on pourrait appeler antisioniste par exemple, certains utilisent ce terme, rejoindrait des positions antisémites. C'est cet amalgame qui est fait, et par la connexion de choses qui sont en principe séparées, il y a là des attaques qui sont trouvées. D'autres, au moment de l'assassinat de cet espion présenté comme espion russe à Londres, on a aussi peint Jeremy Corbyn comme un agent poutinien, avec des caricatures qui le représentaient muni d'une casquette portant l'étoile rouge. Donc,
puisqu'il avait dans un premier temps demandé qu'il y ait une enquête avant qu'on accuse Moscou d'être derrière la tentative d'assassinat de cet espion.
Notre réponse doit être à la fois décisive et proportionnée et basée sur de solides preuves. La Première ministre a-t-elle suivi les étapes nécessaires définies par la Convention sur les armes chimiques pour faire une demande formelle de preuves au gouvernement russe selon l'article 9.2? Qu'a-t-elle répondu à la demande du gouvernement russe qui voulait un échantillon de l'agent neurotoxique utilisé dans l'attaque de Salisbury pour faire ses propres tests? Des analyses de haute précision ont-elles été menées sur des échantillons de cet agent? Et ces analyses ont-elles révélé la moindre preuve sur le lieu de fabrication du poison ou sur l'identité de ceux qui ont perpétré l'attaque?
Il avait agi en futur Premier ministre, c'est-à-dire responsable, calmant le jeu et essayant de trouver des réponses plutôt que d'attiser des tensions. Eh bien, oui, les caricatures sont nombreuses. Vous avez oublié celle en chaviste aussi, qui là-bas aussi a été faite contre Jeremy Corbyn.
Annabelle Alouche.
Ce que je trouve très intéressant, c'est finalement le parallèle entre la révolte étudiante contre les politiques universitaires qui ont été menées depuis 1997-1999 par Tony Blair, et la recomposition des publics, du public des travaillistes, avec notamment l'attrait d'un certain nombre de diplômés, des étudiants d'université vers le Labour. Par ailleurs, sur la question du Brexit, évidemment, les diplômés ont massivement voté pour le Remain. Et se sont sentis en porte-à-faux complet. Et quand on a vu les manifestations à Londres, c'était avant tout des jeunes diplômés ou des jeunes cadres qui ne se reconnaissaient pas dans cette politique du Brexit menée par les conservateurs.
Là où les classes populaires ont quand même plus massivement voté pour le Brexit.
Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, la configuration politique et ce choix de Cameron, à la fois en termes de politique universitaire et d'orientation et de lien avec l'Union européenne, a participé grandement, selon moi, à la recomposition du public du Labour et donc au renforcement du mouvement ces dernières années.
Avec un retour des classes moyennes au Parti travailliste, mais également des classes populaires qui sont séduites par le discours et la politique de Corbyn en faveur des plus défavorisés. Et on se demande si cette construction d'un parti de masse pourrait pas être une inspiration pour nous en France, avec cette stratégie de prendre la tête du grand parti social-démocrate et de le gauchiser. Et sauf qu'en France, il n'y a plus de parti social-démocrate à prendre. Parce que le PS est dans les choux et on se demande quelle machine électorale on pourrait prendre pour prendre le pouvoir.
Il y a à la fois des perspectives, quand on compare, qui sont intéressantes, qui donnent des idées, et notamment dans ce lien entre mouvement politique et organisation syndicale. Comment recomposer, réinventer ces liens que l'on voit être puissants en Angleterre et être en partie à l'origine de la situation qu'on a décrite. Ça, c'est un chantier pour la France. Mais N'oublions pas l'histoire nationale du mouvement ouvrier britannique qui est spécifique, l'histoire de son rapport à la question européenne, le mode de scrutin britannique, uninominal à un tour, qui donne une rente de situation aux principaux partis britanniques et notamment au Labour, et qui explique qu'il se soit maintenu malgré les trahisons qu'ont assumées certains de ses dirigeants pendant la période du New Labour. Donc il y a des spécificités qui font de ce cas un cas qui ne peut pas être dupliqué ailleurs, mais oui, il y a bien sûr des sources d'inspiration, et du côté aussi des méthodes militantes. Justement, cette jeunesse dont on peut l'engager dans la vie politique, ça, c'est ce qu'a réussi Momentum. Momentum a su capter ce qui était disponible dans la société en proposant une nouvelle façon de militer, moins marquée, moins connotée, renvoyant plutôt à quelque chose de réinventé et non pas à la perpétuation de ce qui peut être un folklore, ce qui est une culture, mais ce qui peut aussi parfois devenir un folklore, et ainsi a permis finalement de faire basculer dans l'engagement militant ensuite dans le Labour des dizaines de milliers de nouveaux militants, même s'ils ont rejoint aussi des militants plus anciens. C'est ça qui est fort dans ce qu'arrive à faire Jeremy Corbyn aujourd'hui, qui avait quitté par exemple le parti au moment de la période New Labour, Blair et Gordon, et qui reviennent parce qu'ils retrouvent un programme politique qui correspond à leurs aspirations.
Un dernier mot, Annabelle Allouche.
Oui, alors ce qui est très intéressant aussi, si on parle à la fois des publics et des militants issus de milieux populaires qui reviennent à Corbyn, mais à mon avis de façon moindre, et là je parle sous le contrôle de Paul Vanier, que les classes moyennes, c'est aussi qu'elles ont été sous le feu de UKIP. Donc pour comprendre un petit peu la configuration en termes de vote...
UKIP, le parti de l'extrême droite.
Exactement, qui a récupéré tout un ensemble de revendications contre l'Europe, de crainte par rapport à une politique migratoire. Et finalement, ces classes populaires qui ont voté pour UKIP avec le Brexit se sont aperçues que non seulement ça ne changerait pas grand-chose, mais peut-être qu'elles-mêmes seraient les premières victimes de toutes les politiques d'austérité consécutives au Brexit. Et là, je me demande s'il n'y a pas justement quelque chose à prendre du côté du Labour, du moins, est-ce que Corbyn pourra récupérer toutes ces forces vives qui ont été finalement déçues, laissées pour compte à la fois par UKIP et par le Parti conservateur.
C'est un des points d'interrogation et une des conditions peut-être d'une victoire prochaine du Labour. UKIP s'est effondré après le référendum de 2016, manifestement incapable d'assumer ce pourquoi il avait longtemps milité, ce qui laisse des militants dans l'incertitude. Et parmi les circonscriptions qui sont aujourd'hui ciblées par le Labour d'un côté et Momentum de l'autre, il y en a dans lesquelles, en effet, le score de UKIP a été un score important, considérant donc qu'il y a un enjeu stratégique à convaincre tout le monde, au-delà des rangs de ce qu'on peut appeler la gauche. D'ailleurs, dans la rhétorique même de Jeremy Corbyn, il y a aussi ce que Chantal Mouffe, par exemple, appelle une stratégie populiste. Elle a d'ailleurs récemment, dans Le Monde, écrit une tribune à ce sujet. Le slogan de Jeremy Corbyn, « For the many, not the few », qui ne s'inscrit pas dans le clivage traditionnel de la gauche et de la droite, qui cherche là aussi à réinventer un cadre qui permet peut-être d'intégrer le plus grand nombre.
Renaissance des travaillistes au Royaume-Uni, c'est un article de Paul Vanier et Alan Poplar dans Le Monde diplomatique d'avril. Merci.
Merci.
Oh, Jeremy Corbyn! Oh, Jeremy Corbyn! I'm gonna fight them all. Entire Tory party couldn't hold me back. Policies behind my back, and if you ever not too scared to debate, I'm gonna serve it to you. Well, I'm going to try to resolve conflict, 'cause that's what I do. And the feeling coming from my bones says I fought up a hole. Gonna let the Labour Party split over a hard Brexit or the membership of the single market. And you best commission that report and burn as fast as you can. If you think that like my policies, wait till they try my jam. And you know I'm gonna rock
your socks at the dispatch box.